La Bible nous apprend à prier. Émilie l'a rappelé au début du culte, nous consacrons le mois de janvier en Église à une réflexion autour de la prière. C'est une bonne chose à faire pour le début de l'année que de se poser la question, où est-ce qu'on en est ? On est content de notre vie de prière, comment est-ce qu'on peut la stimuler, comment est-ce qu'on peut aller plus loin ? Et dans ce cadre-là, il y a une série de prédications, et voici la quatrième. La Bible nous apprend à prier. Je ne sais pas si vous vous sentez concerné, si vous sentez que vous avez besoin d'apprendre à prier, ou si vous êtes à l'aise, que la prière n'a plus de secret pour vous. Ce n'est pas mon cas. Et ce matin, nous allons utiliser la Bible comme un modèle de prière, comme un maître. Et je vais vous lire le psaume 86, qui est le psaume qui nous servira de base pour cette prédication. Mais avant de lire le psaume, j'aimerais votre attention. Parce qu'on va faire un exercice que certains d'entre vous ont déjà fait dans les groupes de maison, mais j'aimerais que vous écoutiez la lecture de ce psaume en vous posant une question. Comment est-ce que je me sens proche de ce psaume ? Comment est-ce qu'il me parle ? À quel point je m'en sens proche ? Et je vous propose 4 niveaux de réponse. Le niveau 1, c'est ce psaume, il est pertinent pour moi. Je pourrais dire exactement ce qui est écrit. Il résonne en moi. Le niveau 2, c'est un peu moins. Je me sens proche. Pas d'accord, je ne vis pas tout ce qui est dedans, mais je me sens proche. Le niveau 3, c'est, il ne me parle pas particulièrement aujourd'hui, mais je me souviens avoir été dans une situation similaire. Et le niveau 4, c'est, je n'ai jamais vécu ce genre de choses. Je vous invite donc à faire attention à la lecture et vous poser cette question, à combien est-ce que je me sens proche de ce texte, de ce qu'il exprime. Psaume 86, prière de David. Seigneur, tends l'oreille, réponds-moi, car je suis pauvre et déshérité. Garde-moi, car je suis fidèle. Toi, mon Dieu, sauve-moi, moi qui suis ton serviteur, moi qui mets ma confiance en toi. Fais-moi grâce, Seigneur, car je t'invoque sans cesse. Réjouis-moi, moi, ton serviteur. Vers toi, Seigneur, je m'élève, car toi, Seigneur, tu es bon. Tu pardonnes. Tu es grand par ta fidélité envers ceux qui t'invoquent. Seigneur, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à mes supplications. Au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu me réponds. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car toi, tu es grand, et tu fais des choses étonnantes. Toi seul, mais Dieu, enseigne-moi ta voie, Seigneur. Je marcherai par la loyauté. Unifie mon cœur pour que je craigne ton nom. Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Je glorifierai toujours ton nom, car ta fidélité est grande envers moi et tu me délivres des profondeurs du séjour des morts. Ô Dieu, des gens arrogants se sont dressés contre moi. Une troupe de brutes en veulent à ma vie. Ils ne t'ont pas placé devant eux. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, Donne-moi ta force, à moi, ton serviteur, et sauve-moi, moi, le fils de ta servante. Produis un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et qu'ils aient honte, car c'est toi, Seigneur, qui me secours et qui me console. C'est la fin de notre lecture. Je vous laisse avec cette question. Quel point est-ce que vous vous sentez proche de ce texte? À quel point est-ce qu'il pourrait exprimer ce que vous ressentez? On peut, je crois, facilement trouver une résonance avec ce texte. L'auteur, le psalmiste, exprime un problème. Il est dans une situation de conflit avec des gens qui sont contre lui. Alors, il prie, il se tourne vers Dieu avec insistance. Et ça peut nous parler, toute cette insistance du début, ça peut nous parler quand on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas, que notre prière est inefficace. Le psaume aussi peut nous faire du bien par les promesses qu'il rappelle, promesse de la fidélité de Dieu qui vient secourir. À la lecture, on peut se sentir proche, ressentir des choses qui nous font du bien. Et ce matin, nous allons utiliser notre tête et non pas notre cœur pour aborder ce psaume. Nous allons essayer d'y réfléchir pour apprendre à prier. Le livre des psaumes dans la Bible, c'est un livre particulier. C'est un livre liturgique. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui parle à l'homme, mais c'est un livre où l'homme parle à Dieu. C'est un livre où l'homme s'approche de Dieu. Et c'est pour ça, sans doute, que les croyants aiment tant ce livre, parce qu'ils peuvent rentrer dedans facilement. Et ce livre, il est utile. Les prières qu'il s'y trouve sont utiles parce que si c'est dans la Bible, c'est que c'est une façon de prier qui plaît à Dieu. Une façon de prier qu'il agrée. Une bonne façon de se tourner vers lui. Et on peut s'inspirer de cette façon de faire, on peut s'inspirer de ce qui est dit. Et la meilleure preuve de cette démarche, je crois, c'est que Jésus l'a fait. Dans les évangiles, souvent, Jésus, quand il prie, il cite des psaumes, des bouts de psaumes. Et il le fait une fois qui est célèbre, c'est quand il est sur la croix, qui prie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il cite là un psaume au moment où il connaît un sentiment d'abandon immense. Il trouve les mots pour s'exprimer dans la Bible. Je ne crois pas que ce soit des prières à répéter obligatoirement telles quelles. On peut le faire si on se sent proche de cette situation, si ça nous convient. Comment mieux exprimer notre prière qu'à travers la parole de Dieu? Mais parfois, on se sent en décalage avec les situations aussi. Et ce serait incongru de prier des choses qu'on ne ressent pas. Et puis, si vous êtes familier du texte biblique, vous savez que certains psaumes sont assez violents dans ce qu'ils veulent faire à leurs ennemis. On peut être mal à l'aise, je le comprends, de prier des choses pareilles. Pas obligé de le répéter obligatoirement. Mais c'est une invitation à s'approcher de Dieu, à s'approcher tel qu'on est. Je crois que dans les psaumes, l'homme s'approche tel qu'il est, oui. Nous croyons que la Bible n'a pas d'erreur, qu'elle est sans erreur. Mais ici, ce qui est exprimé, ce n'est pas des déclarations de Dieu, c'est un homme, un fidèle, qui s'approche avec ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent n'est peut-être pas juste. Il se trompe peut-être sur sa situation, et là on le voit déclarer qu'il est fidèle, or on sait que personne ne peut tenir devant Dieu, personne n'est bon. Mais il peut venir quand même devant Dieu avec ses sentiments, avec son, ce qu'il ressent. Et Dieu accueille cela. Il accueille celui qui prie tel qu'il est, même avec ses erreurs d'appréciation sur lui-même. Également, quelque chose que j'aimerais relever sur les psaumes, c'est que ce sont des prières écrites. Ça paraît une évidence puisqu'on vient d'en lire une, et pourtant. Et pourtant, dans notre spiritualité évangélique, on met en avant la prière spontanée. Et les prières écrites, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. La Bible et le livre des psaumes devraient nous rappeler que ces prières ont une place. Et je prendrai un exemple, une analogie. Quand on est amoureux et qu'on veut déclarer son amour, on peut le faire spontanément à la personne qu'on aime quand elle est face à nous. On peut aussi écrire une lettre d'amour. L'un n'empêche pas l'autre. Et dans une lettre, on va pouvoir mieux réfléchir et avoir des mots qui vont plus loin et qui touchent plus. Si la spontanéité est bonne, il ne faut pas mépriser le travail de la réflexion pour exprimer ce qu'on ressent. Je crois que ce livre est une invitation à réfléchir sur ce qu'on ressent, à réfléchir sur notre besoin au moment de s'approcher de Dieu. Et je dis bien s'approcher de Dieu. Parce que finalement, la prière, ce n'est pas une demande, c'est un temps qu'on passe avec Dieu. Un temps où on échange avec lui, ou en tout cas où on s'examine devant lui, on se livre devant lui. Ses demandes, mais aussi là où on en est. Un temps où on peut recevoir autant que l'on s'exprime. Comme quoi, l'écrit et l'imprimé, c'est aussi une valeur sûre. La Bible, donc, nous apprend à primer. Et comme je le disais ce matin, nous nous tournons vers ce psaume pour nous apprendre à prier. La première possibilité que nous avons avec un psaume tel que celui-là, c'est de le dire dans notre prière, le dire tel quel, surtout si nous en sentons proches de ce qu'il exprime. Vous avez peut-être remarqué, au tout début de la lecture, ce psaume est attribué à David. Est-ce qu'il a été écrit par David? Est-ce qu'il a été écrit pour David? Ce n'est pas facile à traduire l'hébreu avec les prépositions. On ne sait pas trop. Mais quand même, cette référence, elle est intéressante parce que David, c'est quelqu'un qu'on connaît, dont on nous parle par ailleurs dans la Bible. On sait que c'est quelqu'un qui a vécu plein de choses, qui a vécu des choses difficiles. Il a été pourchassé, on a voulu le tuer, il a été trahi par ses plus proches, par sa propre famille. Il a connu un péché qui a été révélé aux yeux de tout le monde et il a connu la honte de porter ça. Il a connu des grandes joies, la joie d'être choisi par Dieu, la joie d'être choisi pour être roi, la joie de voir Dieu qui marchait à côté de lui, la promesse aussi, que Dieu serait toujours avec lui et qu'il y aurait toujours un de ses descendants sur le trône pour régner sur son peuple. Donc voilà, quelqu'un qui a connu vraiment plein de choses différentes. Et dans les livres des psaumes, on a des prières pour toutes ces situations. Cette prière, ce n'est pas une prière juste comme ça, parce qu'il était toujours dans cet état de demande, mais il a prié dans toutes circonstances. Ça rend les choses réelles. Regardons le texte un petit peu. C'est peut-être un peu petit. Si vous vous souvenez, il y a toute une première partie où il y a des demandes répétées. C'est très, très insistant, ces demandes. tends l'oreille, garde-moi, fais-moi grâce, réjouis-moi, prête l'oreille. Il n'a pas peur de se montrer insistant. Et je crois qu'il y a un mode d'emploi ici pour quand on ne se sent pas écouté, quand on a l'impression que sa prière ne porte pas. Des fois, je croise des gens qui disent, avec ce qui m'est arrivé, avec ce que je traverse, avec la vie difficile que j'ai, je ne peux pas croire en Dieu. Là, c'est l'inverse. Avec la vie difficile qu'il a, il croit en Dieu. Par contre, dans sa difficulté, il insiste. Dans la difficulté, au lieu de couper court, au contraire, il va vers Dieu et il insiste. Et je crois que nous avons un encouragement à faire de même. Jésus a repris cet encouragement. Il a encouragé à insister en prenant l'exemple d'une veuve qui va ennuyer un juge en allant le voir tous les jours jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut. N'ayons pas peur d'insister. Mais ce qui est remarquable, c'est que toutes ces insistances sont justifiées par des « car ». Il insiste « car ». « Car je suis pauvre et déshérité, car je suis fidèle, car je t'invoque sans cesse, quelque part, car j'ai fait ce que tu attends. » Et puis aussi, car tu es bon, car tu réponds. Je ne sais pas comment vous recevez ça. C'est un peu bizarre. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de prier comme ça, de prier, Seigneur, écoute-moi parce que tu es sympa et parce que je marche avec toi. Ça fait un peu marchandage. Ça fait un peu, je cherche à influencer Dieu. Je cherche un peu à vendre mon affaire. Et pourtant, c'est là, dans la Bible, agréé par Dieu. En y réfléchissant, je me suis dit quand même que c'est à double tranchant, cette histoire. Si je vais vers Dieu pour lui dire, Seigneur, tu le sais, je suis fidèle, tu le sais, je t'invoque sans cesse, je m'ouvre à ce que Dieu vienne me demander des comptes. Ah oui, tu es fidèle ? Ah oui, tu m'invoques sans cesse. Okay. Et là, tu étais aussi fidèle. Donc c'est risqué quand même hein, de faire comme ça. Et je crois que le psalmiste prend ce risque. Hein. Et même de prier, tu es bon, tu réponds, c'est aussi risqué. Dieu peut nous répondre. Tu le crois ? Très bien. Attends, tu vas voir. Je suis bon, je réponds. Ça arrive. Pas besoin de te stresser. Je trouve très intéressant cette introduction. À la fois l'insistance et puis s'ouvrir à travers ce qu'on déclare à ce que Dieu nous challenge. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu crois vraiment ce que tu dis? Est-ce que tu es vraiment fidèle? Ensuite, il y a une deuxième partie, que j'ai découpée en trois sous-parties, qui est plus une déclaration de foi, où le psalmiste parle de Dieu, avec une première sous-partie où il parle de Dieu et du monde. Hein, nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Et rien ne ressemble à tes œuvres. Au moment de prier, le psalmiste, le fidèle, réfléchit à qui il s'adresse. Si la première partie nous montrait quand même une proximité avec Dieu, c'est quelqu'un auprès de qui je peux insister, puis avec qui je peux discuter, tu vois, je suis fidèle, je sais, tu es bon. Dans cette deuxième partie, quand même, il y a un pas de recul pour réfléchir, pour méditer. Qui est Dieu? Il est grand, il est au-dessus de tout. C'est l'occasion de faire un pas de recul, de sortir de ce qui pourrait être un marchandage, une occasion de se décentrer. Se décentrer de moi-même, de mon propre problème. Si Dieu étonne l'humanité par ses œuvres, en quoi mon petit destin personnel et mon petit problème du moment va l'infléchir. C'est une question. Question intéressante. Mais du coup, face à cette grandeur, la réponse du psalmiste, c'est la deuxième sous-partie. Enseigne-moi ta voie, Seigneur. Enseigne-moi ta voie. Je marcherai par ta loyauté. Dans sa prière, le psalmiste reconnaît qu'il a besoin que Dieu le guide pour être fidèle. Et c'est bien de mettre en parallèle à ce qu'il avait dit. Je suis fidèle et maintenant il demande « Enseigne-moi à être fidèle. Rends-moi fidèle. » Ce qui nous amène peut-être à relire la première partie, non pas comme un simple marchandage, mais aussi comme une déclaration d'intention. Je demande à Dieu de m'écouter, mais aussi je me présente avec ma bonne volonté. Enseigne-moi, unifie mon cœur. Elle est intéressante cette expression, unifie mon cœur. Je suis là, je suis partagé avec plein de sentiments, à la fois une confiance en Dieu et puis à la fois des doutes qui me font insister, l'assurance qu'il répond et puis un problème dont j'arrive pas à me débarrasser l'esprit. Unifie mon cœur. Mets-moi dans l'unité, dans la paix, que je sache être en phase avec toi. Et la troisième sous-partie, la réponse à cette prière, Dieu et moi, je glorifierai toujours ton nom. La réponse de tous les le parallèle Dieu qui parle au peuple et les peuples qui reconnaissent la grandeur de Dieu, eh bien, moi, je veux reconnaître ta grandeur. Je veux répondre ainsi, avec, à la fin, cette déclaration de foi. Tu me délivres avec un verbe au présent, même si je ne comprends pas pourquoi, même si je ne sais pas ce qui se passe, tu me délivres de façon constante et encore en ce moment. Après cette deuxième partie, après ce chemin de réflexion, je peux poser ma demande. Ce qui m'embête vraiment, la demande concrète, et c'est la troisième partie qui arrive après tout le reste. Et je crois que ça nous apprend à nous approcher de Dieu avant de tout déballer, de sortir mon problème, prendre le temps de nous approcher de lui, poser la question. Pourquoi je m'approche de lui? À la fois parce qu'il est proche de moi et que je peux le faire, et puis à la fois parce qu'il est grand et qu'il peut tout. C'est ce qu'a fait le psalmiste. Une troupe de brutes en veulent à ma vie. Le psalmiste est dans une situation difficile. Est-ce qu'il y a littéralement des gens à sa porte, armés, prêts à le trucider? C'est possible. On sait dans les récits de l'Ancien Testament que David a dû prendre la fuite contre des personnes qui voulaient sa mort plusieurs fois dans sa vie. Mais c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut prendre au sens figuré. Je repensais en méditant ce texte à la tirade de Harpagon, l'avare de Molière, qui dit « au voleur, à l'assassin, au meurtrier ». Justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Certaines choses qui nous arrivent, on a l'impression d'être assassiné. Et comme je le disais, on peut venir à Dieu avec ce qu'on a sur le cœur, même avec les excès quand on les vit. Parfois, on a l'impression que les autres nous en veulent à mort. Moi, quand j'ai beaucoup de choses à faire, ceux qui m'en rajoutent encore et qui font pression sur moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont aucun égard pour moi, pour mes problèmes. J'ai l'impression que si je craque, si je tombe en burn-out, eh ben, ça leur est égal. Ouais, j'ai l'impression qu'ils n'ont aucun égard pour ma santé ou pour ma vie. Je pense que même si on n'est pas avec des soldats armés à notre porte, on peut prier ces mots parce qu'on peut ressentir cette agression qui vient de l'extérieur. Et j'aime la prière concrète du psalmiste. Produit un signe en ma faveur. Il ne vient pas demander, il ne vient pas dire à Dieu ce que Dieu doit faire. Il ne va pas non plus déballer tout son problème. Voilà, tu vois, j'ai ça, je suis juste, je te suis. Donc maintenant, je vais lui casser la figure parce que je sais que tu es avec moi. Non. Il lâche l'affaire, produit un signe en ma faveur. Et c'est toi qui décides. C'est toi qui sais. Je m'en remets à toi. On parlait tout à l'heure de psaumes qui sont difficiles, dans lesquels il y a une violence contre les ennemis. Je remarque que même quand il y a de la violence, c'est tourné vers Dieu. Moi, je ne ferai rien. Vas-y, interviens. Et même si je m'exprime avec excès, je lâche l'affaire et je te fais confiance. Il y a une interpellation pour chacun d'entre vous, il y a une interpellation pour moi. Comment est-ce que nous vivons nos temps de prière? Est-ce que c'est une pause avant de retourner à l'action? Ou est-ce que vraiment, quand on a remis les choses à Dieu, on ne les reprend pas et on le laisse faire? Voilà une première façon d'utiliser ce psaume, de reprendre ses mots, de reprendre son cheminement et de prier de la même façon. Mais je crois qu'il y a un deuxième niveau, c'est celui de réfléchir et d'essayer de refaire le parcours. Comment le fidèle, avec le problème qu'il avait, est arrivé à former cette prière? Je vous invite à imaginer avec moi un parcours. Je ne sais pas vous, mais moi, quand il y a un problème qui me pèse vraiment, eh ben, il est dans ma tête et il ne sort pas. Et je le ressasse. Et j'y pense tout le temps. Et j'ai du mal à prendre du recul. Et j'imagine que peut-être la prière du psalmiste, elle a commencé par la fin. De dire à Dieu, il y a des gens dressés contre moi. Il y a une troupe de brutes qui en veulent à ma vie. Interviens. Il a peut-être commencé par ça. Et peut-être qu'il n'a pas eu de réponse tout de suite. Alors il l'a prié, reprié en boucle, jusqu'à ce qu'il se rende compte que ben voilà, il n'y avait pas de réponse. Et du coup, il se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réponse? Et il supplie Dieu de l'écouter. Mais en suppliant Dieu de l'écouter, il se pose la question, pourquoi Dieu m'écouterait-il? Je sais pas, il y a des gens qui m'ont déjà posé cette question. Pourquoi Dieu écouterait des hommes? Lui qui est dans le ciel, qu'est-ce qu'il en a à faire de tes problèmes? De quel droit est-ce que tu l'interpelles? De quel droit est-ce que tu attends quelque chose? Est-ce que tu crois vraiment que tu vas recevoir quelque chose? Ça fait réfléchir, oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Pourquoi Dieu me répondrait? Le fruit de sa réflexion, la réponse, on l'a au début. Réponds-moi parce que je me tourne vers toi, je suis fidèle, je t'invoque. Et tu as dit dans ta parole que tu répondais à ceux qui t'invoquent. Réponds-moi parce que je suis pauvre et déshérité et tu as dit dans ta parole que tu prenais soin de ceux qui sont pauvres et de ceux qui n'ont rien. Réponds-moi parce que tu es bon et parce que tu es fidèle, et tu l'as dit dans ta parole, que tu montres ta fidélité. Et en même temps, je crois que au fur et à mesure qu'on réfléchit ainsi, qu'on réfléchit sur pourquoi est-ce que Dieu va me répondre, il y a cette question qui vient, mais pourquoi dans le conflit qui m'oppose à ces personnes, c'est moi qui ai raison. Et pourquoi est-ce qu'ils répondraient à moi et pas à eux? Parce que souvent, les conflits qu'on a, ce n'est pas contre des ennemis abstraits, lointains, avec qui on n'a rien en commun. Ça arrive. Mais souvent, les conflits, et les conflits les pires, et ceux qui nous travaillent le plus, c'est ceux qui sont avec les proches, avec nos collègues, avec des membres de notre famille, avec notre conjoint, avec un frère, une sœur en Christ, à l'église, avec qui on adore le même Dieu. Pourquoi Dieu m'écouterait-il moi plutôt que lui? Ça vaut le coup de s'interroger du coup. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis par rapport à Dieu? Est-ce que je suis vraiment fidèle? Et du coup, former cette prière. Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi que je sois vraiment fidèle. Et finalement, le cœur de la prière, il est là. Plus que la demande qui me préoccupe que ce conflit, le cœur de la prière, enseigne-moi que je marche selon ce que tu veux. J'ai fait ici un abrégé de la prière avec les parties. Seigneur, tends l'oreille, réponds-moi. Ensuite, il y avait la deuxième partie, la sous-partie, nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Ensuite, cette prière, enseigne-moi ta voix, Seigneur. Et puis la réponse, je te célébrerai de tout mon cœur. Avant la fin, ô Dieu, délivre-moi des gens arrogants. Et on se rend compte que ces parties, elles se répondent. Dans la culture antique, on aime bien rédiger comme ça, rédiger en chiasme, encadrer ce qui est le plus important. À l'extérieur, on a les deux parties qui me concernent le plus. Comment est-ce que j'approche de Dieu? Et puis, quel est mon problème pratique? À l'intérieur, on a deux sous-parties qui encadrent elles aussi. Dieu avec le monde et Dieu avec moi. Et au cœur, on a cette prière. Enseigne-moi ta voie, Seigneur. Je marcherai par ta loyauté. Je trouve ça intéressant. Cette prière, et j'en suis convaincu, ce n'est pas juste une prière qu'on peut prier comme ça, il y a aussi la possibilité pour nous d'étudier qu'est-ce qui amène le fidèle à prier cela. D'essayer de rentrer dans ses chaussures, de marcher dans ses chaussures pour essayer de comprendre pourquoi il est là. Parce que ce qui lui est arrivé, ça va m'arriver. Et comment je vais faire, moi, pour parler à Dieu? Dieu nous a fait un grand cadeau avec ce livre des psaumes. Sans en avoir l'air, il nous a donné un mode d'emploi. Il nous aide à nous approcher de lui. Ce n'est pas un mode d'emploi IKEA, facile à suivre, 1, 2, 3, 4. Non, c'est plus quelque chose en spirale. Je le lis une fois, deux fois, trois fois. Je comprends toujours plus, je descends toujours plus profond, mais ça descend toujours plus, avec l'invitation toujours à lire plus et à mieux comprendre. Mais quand même, un mode d'emploi, il m'apprend à prier. Donc un deuxième niveau de lecture, après prier les mots tels quels, réfléchir à pourquoi je les prie, pourquoi je construis une telle prière. Et du coup, c'est l'invitation nous-mêmes à construire de telles prières en suivant la même méthode. Avant de terminer, j'irai aller un pas plus loin. C'est que nous, qui sommes chrétiens, par rapport à celui qui a écrit le psaume, par rapport à ceux qui l'ont suivi et qui l'ont récité, qui l'ont écouté, qui se l'ont approprié, nous, nous pouvons aller plus loin. Parce que nous connaissons Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu, qui a été homme, qui a prié les psaumes, qui se les est appropriés, qui nous invite à le faire. Mais Jésus-Christ aussi, qui vient nous donner une assurance que nous pouvons prier ce psaume. Et si on pouvait trouver un peu gonflé de la part du psalmiste de dire « Écoute-moi parce que je suis fidèle », avec Jésus-Christ, on peut le faire. Parce que par le sacrifice de Jésus, nous avons été déclarés justes. Et même si nos actions ne nous permettent pas de le faire, et même si on peut prier « Enseigne-moi ce que je dois faire », nous savons que nous avons été déclarés justes et fidèles. Et de même, nous savons que Dieu est bon, parce que nous avons vu qu'il a accompli sa promesse de délivrer l'humanité par le sacrifice de Jésus-Christ, alors que nous en étions séparés. Et là où on peut trouver le psalmiste un peu gonflé, de dire « Écoute-moi parce que je suis fidèle et que tu es bon », avec le recul que nous avons, nous pouvons le prier sans crainte. Voilà. Nous arrêtons là la leçon. Mais vraiment, j'aimerais vous inviter à considérer les psaumes de cette manière et vous poser la question dans votre lecture. Comment est-ce que je peux apprendre à prier? Comment est-ce que Dieu peut m'apprendre à prier? Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour les psaumes qu'elle contient. Non seulement, Seigneur, tu nous as créés, tu nous as rachetés, tu nous as donné ta grâce, mais tu nous aides même à nous tourner vers toi, nous guidant pas à pas pour être toujours dans une intimité plus grande avec toi et une marche de compréhension de comment tu agis avec nous. Seigneur, j'aimerais te prier que tu mettes dans nos cœurs cette envie, cette soif de rentrer dans une vie de prière, de poursuivre une vie de prière. De ne pas avoir des temps balisés dans lesquels nous entrons et puis que nous ressortons comme nous sommes entrés, mais de nous laisser transformer par la rencontre que nous pouvons avoir avec toi. Seigneur, je te prie pour cette année tout particulièrement, que ce temps que nous avons passé à réfléchir à la prière nous oriente, mais surtout, il oriente notre vie, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.